Alors bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Et je souhaiterais ouvrir avec vous le livre de l'Exode. Alors, plusieurs d'entre vous le savent, l'Ancien Testament contient parfois des instructions qui concernaient le peuple d'Israël, mais qui ne nous concernent plus à nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui vivons sous l'économie de la grâce. Mais en revanche, cet Ancien Testament contient comme des trésors cachés une multitude d'images, exemples, types, qui ont été écrits pour notre instruction. Et ces trésors, ce sont des images de réalité que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et puisque la réalité la plus présente du Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus, alors de toute évidence, les images les plus récurrentes de l'Ancien Testament, ce sont également celles du Seigneur Jésus. Et on comprend mieux alors pourquoi le Seigneur Jésus invitait ses auditeurs à sonder les Écritures. On comprend alors pourquoi le Seigneur Jésus, à la fin de l'Évangile selon Luc, ouvrit l'intelligence des disciples d'Emmaüs afin qu'ils comprirent l'Ancien Testament. Alors je vous propose d'ouvrir le livre de l'Exode pour observer une scène de combat. Je propose d'ouvrir au chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 18. Et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. Chapitre 14, verset 9. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, et ses cavaliers, et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel, et dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert ?» Verset 13. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous. » L'Éternel dit à Moïse, « Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux, et je me glorifierai dans le Pharaon et dans toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Verset 21. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller sur la mer toute la nuit un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent, et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers au milieu de la mer. Et il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, dans la colonne de feu et dans la nuit, regarda l'armée des Égyptiens et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Et il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux se retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée du Pharaon qui était entrée après eux dans la mer, et il n'en resta pas même un seul. Et les fils d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. L'Éternel délivrant ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crura à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Alors, replaçons l'histoire dans son contexte. Le peuple d'Israël était depuis de nombreuses années esclave de l'Égypte, une Égypte dominée par le Pharaon. Mais Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte jusqu'à ce que le Pharaon dise au peuple d'Israël, c'est bon, vous pouvez partir. Seulement, on connaît la suite, le Pharaon est revenu sur sa décision et a décidé de rattraper le peuple d'Israël qui venait de partir. Alors voilà un peuple d'Israël qui se retrouve face à la mer Rouge. La traversée à la nage, c'est la noyade assurée. Et voilà que derrière lui, l'armée du Pharaon arrive à grande allure. En d'autres mots, devant lui c'est la mort, derrière lui c'est la mort. Le peuple d'Israël est donc dans l'incapacité la plus totale de se délivrer par lui-même. A priori, c'est l'échec assuré. Mais voilà que Moïse a cette belle parole. Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous demeurerez tranquille. Dieu demande seulement à Moïse un pas dans la foi. Un pas dans la foi qui font que les eaux se séparent. Le peuple peut traverser la mer à sec. Et on voit alors comment l'Éternel combat contre l'armée du Pharaon. Comment il la met en désordre et comment il les détruit complètement. Le peuple d'Israël peut alors traverser la mer à sec et continuer sa route en direction de la terre promise Canaan. Et remarquons un détail dans ce passage que nous venons de lire. Peut-être le détail le plus important. C'est que le peuple, lui, n'a rien fait pour sa délivrance. Il n'a rien fait. C'est l'Éternel qui a tout accompli. C'est l'Éternel qui les a délivrés. C'est l'Éternel qui a détruit l'armée du Pharaon. Alors de quoi nous parle ce passage pour nous, croyants d'aujourd'hui qui lisons ça? Eh bien, nous aussi, comme ces Israélites, nous étions autrefois esclaves. Esclaves d'un monde dominé par Satan. Mais Dieu, dans son amour, nous a arrachés de ce monde. Et par le moyen de la foi, nous a fait passer par la mer Rouge. Cette mer Rouge, c'est la croix. Sur cette croix, nous voyons notre Sauveur qui a combattu seul pour notre délivrance. Il a remporté la victoire à lui seul pour que nous ayons la vie éternelle. Et à partir de ce moment, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et un nouveau départ commence, non pas vers une terre promise, mais vers la cité céleste, la maison de Dieu dans laquelle une place nous est préparée. Le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. C'est lui qui a mené le combat, pas nous. Et nous voyons par exemple dans l'évangile de Jean, l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur, « Mais où vas-tu ? » Et le Seigneur Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Le Seigneur Jésus parlait bien évidemment de la croix. Alors peut-être que quelqu'un se demande, « Mais n'ai-je quand même pas un petit combat à mener pour mon salut ?» Après ce que nous venons de lire, la réponse est claire. Tu n'as rien à faire. Crois seulement et reçois ce salut que Dieu t'offre gratuitement. Le Seigneur Jésus, lui, a tout accompli sur la croix. Il a même prononcé cette parole, c'est accompli. Mon salut, c'est l'œuvre de mon Sauveur. Ce n'est pas la mienne. Pourtant, chacun a le choix d'accepter ou de mépriser cette merveilleuse délivrance. Alors peut-être que quelqu'un dans la salle n'a pas encore fait ce choix, ce bon choix. Alors j'aimerais lui dire, regarde à celui qui a combattu pour toi. Prends cette main qu'il te tend. Fais-le aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Revenons au peuple d'Israël. Que voyons-nous tout de suite après cette grande délivrance nous voyons Moïse et le peuple d'Israël, tous ensemble, qui louent l'Éternel. Alors, nous l'avons fait ce matin. Nous pouvons le faire dans la semaine, le louer individuellement. Mais profitons aussi de ces moments où nous sommes réunis tous ensemble pour faire monter devant Dieu notre Père une louange collective. Et avant de passer à la deuxième partie de ce message, je souhaiterais qu'on chante le chant 434 qui nous parle justement de cette victoire. Après cette traversée de la mer Rouge, après ce moment de louange qu'Israël a pu faire monter devant l'Éternel, nous le voyons alors entamer une longue marche en direction du pays de Canaan. Pour nous, après notre conversion, une marche également commence en direction du ciel, mais cette marche n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et ce que je vous propose de voir maintenant, au travers d'une deuxième scène de combat, le combat contre Amalek, au chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 8. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes, et ils prirent une pierre, et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémorial dans le livre, et fais-le entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Et Moïse bâtit un autel et appela son nom, « Jéhovah Nissi », et il dit, « Parce que Jah a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » Nous voyons cette fois-ci un combat où le peuple est actif. Nous venons d'en voir un où l'Éternel a tout accompli. Nous en voyons un maintenant dans la marche de ces Israélites dans le désert où ils sont appelés à combattre. Et la première question que l'on se pose, mais qui est cet Amalek qui arrive subitement? Alors, si nous lisions dans la Genèse, nous verrions qu'Amalek était un descendant d'Ésaü, ce profane qui avait méprisé Dieu en voulant échanger son droit d'aînesse contre un simple plat de lentilles pour satisfaire son appétit. Amalek, ce peuple, n'a cessé d'opprimer Israël. Et si nous le voyons apparaître dès le livre des commencements, la Genèse, nous voyons qu'il disparaît au moment où David monte sur son trône. La volonté de l'Éternel, c'était qu'un jour Amalek disparaisse de la surface de la terre. Maintenant, on se demande, mais qu'est-ce que Amalek peut bien vouloir nous dire, pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, Amalek représente tous les ustensiles que le diable utilise pour tenter la chair du croyant, pour ainsi le faire tomber, pour ainsi ôter la joie que le croyant a dans sa communion avec son Sauveur. En d'autres mots, plus concrètement, que représente Amalek? Eh bien, Amalek, c'est par exemple cette situation dans laquelle il te serait plus confortable de mentir. Amalek, c'est par exemple cette envie que tu as d'insulter ton frère que tu ne supportes plus. Amalek, c'est par exemple cette bouteille de whisky au coin de la table que tu aimerais avaler entièrement pour oublier tous tes soucis. Mais Amalek, c'est aussi ce site pornographique qui t'est accessible en deux clics de souris. Amalek, c'est cette personne au coin de la rue ou au bureau qui t'attire. Et la liste est longue, nous pourrions en rajouter. Et de la même manière qu'il a été demandé à Josué de combattre contre Amalek, le chrétien est invité à combattre contre toutes ces mauvaises choses qui l'entourent. Et de nombreux versets nous le rappellent, en particulier dans toutes les épîtres. Alors, enfant de Dieu, j'ai appris toutes ces choses, je désire plaire au Seigneur, alors je vais faire des efforts, je vais tirer un trait sur tel aspect de ma vie, je vais me séparer de certaines pratiques, je vais prendre de bonnes résolutions, et puis voilà qu'un jour, face à la tentation, paf, là d'Adam, voilà, je tombe. Je réalise alors que je viens de pécher. Je suis dégoûté de moi-même. Je perds le moral. Et j'en arrive à cette conclusion de l'apôtre Paul. Le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais pourtant, tous ces efforts, ne les ai-je pas faits pour le Seigneur ? Comment se fait-il que j'en suis arrivé là ? Mais dans ce cas, comment combattre contre Amalek ? Alors je vous propose de revenir au texte et d'observer. Que voit-on ? On voit tout d'abord un Josué. Un Josué, nous le savons, qui avait grandi auprès de Moïse, qui avait suivi son instruction, ses enseignements, et qui était donc préparé au combat. Un Josué préparé. Nous voyons également que Josué avait des armes. Nous voyons au verset 14 qu'il est parlé des épées. Mais surtout, nous voyons qu'il y avait Moïse. Moïse qui s'était mis en hauteur afin de dominer la scène de combat, mais aussi pour que le peuple puisse le voir. Et on voit que sans les mains étendues de Moïse, il n'y aurait pas eu de victoire. Eh bien, voilà, nous aussi, croyants, nous avons cette volonté de combattre contre ces mauvaises choses qui nous entourent, mais seul dans ce combat, c'est la défaite assurée. Mais nous sommes du côté de celui qui a déjà vaincu, le Seigneur Jésus. Et ce bon berger nous donne des ressources, nous donne les ressources nécessaires pour combattre. Alors, que sont ces ressources ? La première ressource, c'est nos relations verticales avec Dieu. Une relation qui passe par la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, cette parole de Dieu qui nous instruit. Dans le psaume 32, nous pourrions lire « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. » Mais cette parole de Dieu, c'est aussi cette parole qui nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, pour être en bonne santé physique, même mentale, nous avons besoin d'une nourriture variée, équilibrée, un peu de glucides, de lipides, de protéines, etc. Mais il en est de même dans les choses spirituelles. Pour être en bonne santé spirituelle, nous avons besoin de manger la parole de Dieu. Et pas seulement les quatre évangiles ou une ou deux épîtres, mais des livres du Pentateuch, des psaumes, des livres de prophétie, des évangiles, des épîtres, de l'Apocalypse. Nous avons besoin de tout ça pour vivre en bonne santé spirituelle. Et puis, la relation verticale avec Dieu passe également par la prière. Après l'avoir écouté, nous pouvons lui parler. Et comme le psalmiste, nous pouvons crier à l'Éternel. Éternel, je crie à toi, dès le matin, ma prière te prévient. nous pouvons lui remettre toute chose et lui dire, ben voilà, aujourd'hui, peut-être que je vais être face à des tentations. Seigneur, garde-moi de ces tentations. Et nous avons aussi ce verset que l'apôtre a pu écrire, « Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. » Colossiens 4, verset 2. Donc, première ressource, une relation verticale avec Dieu. Deuxième ressource, nous en avons parlé ce matin, c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous a été donné au moment où nous nous sommes convertis, au moment où nous sommes devenus enfants de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit vit en nous. Et comment ce Saint-Esprit agit dans cette bataille? Eh bien, l'Épître aux Galates nous en parle. Galates 5, verset 17. Je vous dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. En marchant par l'Esprit, nous sommes munis de cette épée. Cette épée dont l'Épître aux Éphésiens nous en parle comme l'épée de l'Esprit. En marchant par l'Esprit, notre conscience est aiguisée selon les normes de Dieu. Et en marchant par l'Esprit, notre regard se tourne en permanence vers celui qui est notre divin modèle, le Seigneur Jésus. Et donc notre troisième ressource, c'est bien sûr notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Et si on revient au texte, qu'est-ce que l'on voit? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Ceci nous parle de la dépendance. Ceci nous parle de l'intercession du Seigneur pour les siens. Bien sûr, des frères et sœurs peuvent intercéder dans la prière lorsque ça ne va pas. Mais le Seigneur Jésus, lui, est le divin intercesseur qui ne baisse jamais les bras, contrairement à Moïse. Et nous avons ce beau verset en Romains 8. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de la mort de Christ? Plus loin, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons vu également que Moïse était en hauteur pour dominer la scène, mais en hauteur également pour que le peuple puisse le voir. Ceci nous parle encore de notre dépendance à Christ. Sans notre dépendance à Christ, nous pouvons être plein de bonne volonté pour combattre. Mais sans notre dépendance à Christ, le combat est perdu d'avance. Nous avons encore un beau verset qui nous parle justement de ce regard tourné vers Christ en permanence. C'est en Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Rappelons que lorsque l'apôtre Paul a écrit ce verset, inspiré par le Saint-Esprit, il ne s'adressait pas seulement à des débutants dans la foi. Il s'adressait à l'assemblée des Hébreux, des personnes qui avaient une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Mais il leur dit, marchez avec les yeux fixés sur Jésus. Sans cela, au moindre combat, généralement c'est l'échec et nous tombons. Et voilà nos trois ressources, cette relation verticale avec Dieu, ce Saint-Esprit qui aiguise notre conscience, et notre dépendance à Jésus-Christ, qu'avec ces trois ressources, nous sachions remporter des victoires. Mais voilà, si nous tombons, malheureusement, cela arrive, je pense que chacun ici pourrait témoigner de moments dans lesquels il est tombé très bas. Et si nous faisions une étude complète sur Amalek, nous verrions qu'une fois Amalek frappa Israël, ou qu'une fois Israël ne détruisit pas complètement Amalek, contrairement aux ordonnances de l'Éternel. Eh bien, nous aussi, nous sommes bien obligés de reconnaître que dans nos vies, il y a des moments dont nous ne sommes pas très fiers. Mais rappelons-nous que si Satan peut nous faire tomber, si nous péchons, si nous nous éloignons de Dieu, si nous devenons infidèles, en revanche, lui reste. Dieu reste toujours fidèle. Nous qui sommes les enfants de Dieu, rien ne pourra nous arracher de ses mains et rien ne pourra ôter l'amour que Dieu a pour nous. Aussi, si nous tombons dans le péché, souvenons-nous de ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors, en conclusion à ce message, j'aimerais rappeler que nous sommes devenus enfants de Dieu par la victoire que seul le Seigneur Jésus a remportée. Une vie nouvelle nous a été donnée. Nous avons pris un nouveau départ vers le ciel. Mais dans cette marche ici-bas, il y a parfois des combats à mener. Nous venons d'en voir un, celui contre Amalek, c'est-à-dire contre les tentations. Mais voilà, ne combattons pas seuls, sachons utiliser toutes les ressources que notre Seigneur met à notre disposition. Je vous souhaite un bon dimanche.